L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local, émission sur l'actualité mayonnaise et le fourmillement de ses initiatives. Aujourd'hui, on parle d'un joli projet mêlant photo et couture autour de Mélée du Maine, rencontre avec l'une des photographes italiennes. La Confédération paysanne alerte sur l'accaparement des terres, un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années, notamment en Mayenne. Et troisième épisode de notre série Au refuge de l'Arche, vous découvrirez l'histoire de l'ours Bonnie. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. La deuxième vague de Covid-19 est probablement en formation. C'est ce qu'a déclaré le docteur Pierre Blaise, directeur scientifique de l'Agence régionale de santé. L'ARS a dévoilé hier ses derniers chiffres de l'épidémie. Les pays de la Loire ont franchi le seuil d'alerte avec 53,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence continue de grimper en Mayenne avec 41,6 contre 40,3 il y a quelques jours. Le taux de positivité, lui, s'établit à 3,4%. Solution de repli pour les élèves surexposés au radon. Nous vous en parlions hier, un taux anormalement élevé de ce gaz cancérigène avait été mesuré dans l'école maternelle Gérard Philippe à Laval. Lors de la réunion d'information hier soir, la mairie de Laval et les autorités sanitaires ont tenté de rassurer parents et enseignants. L'école ne fermera pas, elle est relocalisée, les grandes sections seront hébergées à Victor Hugo, un établissement à proximité, et les moyennes et petites sections restent sur le site dans des locaux où le radon est inexistant ou presque. Tout sera prêt début novembre, un nouveau rapport d'expertise est en cours. Le mystère de l'eau dans le gasoil résolu. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs conducteurs, notamment près de Château-Gontier, sont tombés en panne après avoir fait le plein dans des stations-service. En cause, une défaillance technique de la part de SFDM, une société qui stocke les hydrocarbures près de la raffinerie Total à Donges. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à contacter la station essence où vous avez fait votre plein. Après les attaques de chevaux, une première agression d'un veau en Mayenne. L'animal a été retrouvé mort dimanche dans un champ à la chapelle Rinsoin, à l'est de Laval. Le veau a été découvert avec une oreille découpée par des chasseurs qui traversaient l'exploitation. Deux photographes italiennes en résidence près de Mélée du Maine, Laura Pezzenati et Francesca Di Bonito, ont commencé un projet photo et textile avec des élèves de 6e et 5e du collège Notre-Dame à Mélée du Maine, mais aussi avec des accueils de loisirs du pays de Mélégré et des ateliers d'art pour adultes. Objectif d'ici le mois de décembre, finaliser une œuvre collective qui sera installée au plan d'eau de la Chênaie à Saint-Denis du Maine. Nous avons donc rencontré l'une des artistes lors d'un premier atelier avec les élèves.
Je suis Laura Pezzenati, je suis photographe et médiatrice pédagogique. Je travaille en binôme avec Francesca Di Bonito, qui est l'autre artiste qui intervient pendant cette résidence. C'est une résidence artistique qui a pour objectif de construire une œuvre collective et transgénérationnelle avec les habitants du territoire de la Mayenne. Et ça sera une œuvre photographique et textile. Donc, va mélanger l'art visuel à l'art plastique et notamment à la couture et à la broderie sur les images. Concrètement, ça va se dérouler sur ces 3 mois et où on va travailler avec des enfants du collège Notre-Dame de Mélégré, des centres de loisirs de la communauté des communes de la Mayenne et un groupe d'adultes qui travaillent dans l'atelier d'art de Petit Vauveron à Saint-Denis du Maine. Donc ces 3 différents publics sont engagés pour construire et réaliser avec nous, avec l'aide de moi et Francesca, cette installation qui va être placée dans le bois de la base de loisirs de la Chênaie. L'idée de base, c'est de travailler sur la thématique de l'identité, de l'appartenance au territoire, et donc sur la valorisation du patrimoine de ce territoire. Et ça, c'est un peu le fil rouge sur lequel on va construire l'œuvre d'art. Après, les enfants seront invités à travailler sur la prise de vue, donc à travers les appareils photo, et à travailler sur ces images avec de la broderie, donc broder les images qu'ils vont prendre, et nous aider à construire les grandes structures qui vont être installées dans la forêt. Donc, il y aura et le côté de liberté créative, parce que chaque enfant fait les photos qu'ils sont et prod comme ils sont, mais il y a quand même une guide sur la thématique et sur les techniques aussi à utiliser. Mais oui, on vient découvrir ce territoire, et on aime bien le monde rural, et voilà, donc on est content de découvrir. travailler pendant 3 mois, ça permet vraiment de construire des relations et d'entrer en communication avec les gens qui vivent et qui habitent ici. Donc c'est un peu ça, et c'est un peu la base de l'art et de la création et de la transmission.
Pour les parents et leurs enfants, des ateliers photo-découvertes pourraient être organisés. Tout le matériel est fourni à chaque fois. Plus de terres pour les petits agriculteurs, c'est ce que craint la Confédération Paysanne 53 avec l'accaparement des terres. Le porte-parole du syndicat Dominique Morin sera à notre micro dans 3 minutes, juste après Benny Sings, ça s'appelle Dreamin'. Écoutez l'agité du local sur l'autre radio. L'accaparement des terres, c'est l'un des sujets dénoncés par la Confédération Paysanne de la Mayenne. On en parle tout de suite avec son porte-parole Dominique Morin. La Confédération Paysanne agite son chiffon rouge. En Mayenne, le syndicat alerte sur l'accaparement des terres agricoles. C'était d'ailleurs le sujet d'une rencontre il y a quelques jours avec le préfet Jean-Francis Treffel et les députés mayennais Géraldine Bagnier, Yannick Favennec et Guillaume Garot. En face de moi, Dominique Morin, éleveur de la vache laitière à Fontaine Couverte et porte-parole de la Confédération Paysanne 53. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pour expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que c'est l'accaparement des terres agricoles ?
Alors l'accaparement, ce que nous dénonçons par ce terme-là, c'est le fait que certaines personnes ou sociétés sont toujours avides de terres supplémentaires et sans limite, à tel point que c'est des montages sociétaires qui permettent, en toute légalité, d'exploiter des surfaces agricoles et d'empêcher, dans certaines situations, l'installation d'agriculteurs.
puisque pour ceux qui ne connaissent pas justement comment ça se passe quand un terrain agricole est mis à la vente ou à la location, qui peut se mettre, se dire intéressé et comment ça se passe ensuite?
Alors officiellement c'est public et donc tout le monde peut porter sa candidature. Ensuite il y a des délais naturellement légaux à respecter et puis une commission décide de l'attribution des terres. Ça c'est la légalité des choses. Dans la pratique ça se passe un petit peu différemment parce que un tas de cas de figure différents existent naturellement, mais l'exemple le plus simple...
À quel moment ça pose problème alors du coup?
Alors imaginons qu'une terre, ça dépend si c'est une exploitation entière ou une partie d'exploitation d'une part. Prenons l'exemple d'une exploitation entière qui est disponible, deux candidats se présentent. Selon la situation dans laquelle il est, il va être classé dans un rang qui va le rendre prioritaire. Je prends un exemple, une exploitation, 30 hectares, un jeune candidat souhaite, un candidat, pas forcément jeune d'ailleurs, mais enfin, souhaite s'installer sur cette exploitation-là, s'il est dans les clous par rapport au fait de rentrer dans la catégorie des gens qui s'installent avec les aides, c'est-à-dire avec une qualification professionnelle, il va être classé dans un rang prioritaire numéro 1, alors que si quelqu'un d'autre veut exploiter cette terre-là en agrandissement, là du coup il sera classé dans une catégorie inférieure. Donc la priorité elle sera quand même
pour
à l'installation. Voilà. Mais les aléas de la vie font que les choses se passent parfois différemment et le problème est d'autant plus important lorsqu'il y a vente des terres. Parce que du coup, in fine, souvent, c'est quand même celui qui a le plus les moyens financiers qui arrive à obtenir les terres. Et alors, pour contourner un petit peu la réglementation, des gens se présentent comme étant candidats à l'installation sous forme d'une société. Et quand on déroule un petit peu la pelote du montage sociétaire, en réalité, il s'agit de gens qui ont déjà des sociétés, qui utilisent un éventuel salarié, par exemple, dans le nom du jeune qui veut s'installer. Et puis, l'embrouille est faite, quoi.
Donc, c'est ce que vous dénoncez, en fait, un peu l'accaparement des terres, mais dissimulé sous une forme d'installation, en fait,
ah oui,
déguisée.
C'est une forme d'accaparement qu'on dénonce. Et puis, il y en a d'autres. Mais juste l'une des conséquences, quand même, que tout le monde peut voir dans notre département, c'est que à chaque fois, ces terres-là voient l'élevage disparaître. Ce sont des terres qui sont exploitées pour faire des cultures et donc ça va avoir des conséquences très importantes et négatives mais pas que pour les agriculteurs ou l'agriculture mayonnaise, mais pour l'ensemble des citoyens mayonnais.
Parce qu'on sait que le département vit beaucoup aussi de l'élevage.
Ah oui, et puis qu'on est on est dans une région de polyculture élevage et qui la cohésion des terres a besoin de l'élevage. Pour cultiver correctement les sols, si on ne met plus que de la culture, c'est agronomiquement un problème hyper important qui va se poser. Mais quand je vous dis qu'il y a différentes façons d'accaparer des terres, de notre point de vue, il y a aussi des gens qui ont une double activité.
C'est-à-dire ?
Je prends un exemple. Des gens qui ont un enfant qui ne travaille pas dans l'agriculture et qui souhaitent pas travailler dans l'agriculture, mais ils sont propriétaires de leurs terres. Ils sont propriétaires de 30, de 50, peu importe. Et ils souhaitent pas s'en séparer. Ils souhaitent pas les permettre à quelqu'un d'autre de s'installer. Il arrive fréquemment, et trop fréquemment, que le fils ou la fille, hein, je veux pas prendre de, ça n'a pas d'importance, continue de garder son travail à l'extérieur. Et puis, exploite ou fait exploiter les surfaces par un entrepreneur à côté. Et donc, pour nous, c'est une autre forme d'accaparement, mais c'en est une aussi. C'est la double activité, quelqu'un qui garde son emploi à l'extérieur et puis qui cultive ou fait cultiver des terres, tout simplement parce que, officiellement, le propriétaire, c'est les parents.
Donc, ça veut dire que c'est une terre en moins pour d'autres agriculteurs.
Exactement. Voilà, vous avez tout compris. C'est des surfaces en moins pour des gens qui voudraient vivre de ce métier-là.
Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse tension, par exemple, ici en Mayenne, sur les terres agricoles disponibles ?
Ah oui, on remarque que le nombre d'agriculteurs diminue à la vitesse grand V tous les ans, mais que les terres sont toujours cultivées.
Et donc, ça veut dire qu'il y a moins d'agriculteurs, et c'est aussi tout un système qui bouge, donc moins d'agriculteurs, des plus grandes surfaces, une certaine sorte d'agriculture dont vous n'êtes pas forcément friand, on le sait, à la Confédération Paysanne.
Ah oui, bah parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la céréalisation qui gagne, hein, et l'élevage qui disparaît, avec toutes les conséquences que ça a. Faut pas perdre de vue que à cette vitesse-là, dans 10 ans, les laiteries du coin n'auront plus assez de producteurs pour alimenter leur fabrication.
Ça irait aussi vite que ça, 10
ah,
ans.
Ah mais bien sûr, mais bien sûr, faut pas se faire d'illusions. C'est très très rapide.
Donc c'est un phénomène qui concerne vraiment la France et ici la Mayenne, parce que c'est vrai que l'accaparement des terres, on en parle souvent pour des pays plutôt en voie de développement par des grands groupes industriels, mais là ça c'est possible aussi ici sous d'autres formes.
Ah, mais exactement, et puis c'est une autre façon d'industrialiser l'agriculture, parce que du coup, ce ne sont plus des agriculteurs, mais des entreprises, souvent parfois de travaux agricoles, qui ont les moyens, eux, humains et techniques pour mettre en place les cultures, mais ça n'a plus rien à voir avec de l'agriculture. Et l'élevage disparaît à chaque fois.
Et vous avez quelques exemples précis ici, alors sans forcément donner de noms de personnes, puisqu'on sait que c'est des dossiers assez sensibles, mais en tout cas de villages, on va dire, qui sont concernés.
Alors l'autre jour, nous avions organisé la rencontre avec les députés et le préfet à Fromentières, justement parce que sur la commune, là-bas, il y a une situation très, très, très précise d'accaparement de terres par une famille qui a su organiser des montages sociétaires dont nous avons eu beaucoup de difficultés à détricoter le maillage, et en plus, on le dit et le répète, de façon tout à fait légale. C'est aussi ça qui est un peu scandaleux. C'est pour ça qu'on interpelle les gens qui font les lois, donc les députés, pour leur dire voilà, vous êtes en charge de créer des lois, mais il y a des gens qui ont suffisamment de moyens pour trouver les failles et pour les utiliser pleinement.
Et justement, lors de cette rencontre avec les députés, est-ce que vous avez eu déjà une réponse, ou en tout cas une oreille attentive à minima ?
Alors, une oreille attentive, oui, parce que le fait de dénoncer un cas précis et local, qui est une dérive des lois que les députés ont votées, oui, forcément, ça les a interpellés quand même.
Et donc maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez ? Puisque vous dites, là, le problème de ce sujet, c'est que tout est légal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ?
Alors, il y a différents leviers d'action. Alors, certains sont compliqués à mettre en place, mais si c'était simple, ça se saurait. Par exemple, l'attribution des aides PAC. Dans l'exemple sur lequel on a bâti notre rencontre, c'est un montage sociétaire avec, de mémoire, 4 ou 5 sociétés d'exploitation agricole, pour un total d'environ 700 hectares. Ces gens-là, au niveau de la PAC, ont le droit, et ils ne s'en privent pas d'en bénéficier, ont le droit à chaque société de toucher la surprime aux 52 premiers hectares sous l'article des petites fermes. C'est juste scandaleux, parce que c'est quand même de l'argent public, mais c'est légal. Donc, ils en profitent. Et puis, donc, c'est l'un des leviers, c'est quand même de mettre des règles pour que ce genre d'aide ne puisse pas être attribué à des montages sociétaires comme cela. Tout le monde a dénoncé le fait que, je crois que c'est la reine d'Angleterre ou le prince de Monaco, touchait des aides PAC sur des surfaces qui sont dédiées ou aux loisirs ou aux pelouses des châteaux, mais finalement, à une autre échelle, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos départements.
Donc pour éviter en fait qu'une seule et même grosse exploitation touche 5 fois l'aide, quoi. Si dans le cas où il y aurait 5 terres divisées en 5 sociétés.
Alors, oui, par exemple, mais même au-delà de ça, nous, notre position, elle est beaucoup plus catégorique, ce serait de dire que l'argent de la PAC devrait être plafonné et en fonction du nombre d'actifs agricoles réels. Je précise bien d'actifs agricoles réels, parce que les sociétés dont on parle dans l'exemple qu'on cite aujourd'hui, les sociétés sont parfois au nom de personnes un petit peu qui servent un peu de prête-nom, qui ne sont pas des actifs agricoles réels. Donc voilà, notre cheval de bataille, nous, ça a toujours été de dire l'argent de la PAC devrait non pas être redistribué en fonction des hectares, mais en fonction des gens qui travaillent réellement sur les exploitations.
Et c'est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis quand même plusieurs années. Pourquoi est-ce que vous mettez en lumière précisément aujourd'hui ?
Mais parce que ça fait longtemps et ça fait depuis toujours on le met en lumière. Aujourd'hui, c'est peut-être plus en résonance avec la société qui demande aussi des produits qui respectent davantage l'environnement, hein, que ce soit les sols, l'eau, l'air. On a eu assez de débats sur la question de l'application des produits phytosanitaires. Donc la société commence un peu sans doute à s'inquiéter aussi de la façon dont sont produits dont est produite l'alimentation et des conséquences que ça a sur l'ensemble de la société et de son bien-être et de sa santé. Donc on est peut-être, c'est peut-être parce que ça tombe en résonance en ce moment avec cette façon dont la société réagit, qui fait qu'on met le doigt sur ce que nous, on dénonce depuis des années et des années.
Qui est donc, entre autres, l'accaparement des terres agricoles. Merci beaucoup Dominique Morin. On le rappelle, vous êtes éleveur de vaches laitières à Fontaine-Couverte et, entre autres, porte-parole de la Confédération Paysanne 53.
Je vous remercie.
Dominique Morin qui regrette aussi le report du projet de loi sur le foncier agricole qui permettrait selon lui une plus juste répartition des terres agricoles.
Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veut. Quand vient le soir, quand s'endorment les amoureux, on poserait son bouquin à côté de son béguin. À côté, c'est bien mieux qu'en face. Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie, la vraie, écrit des mots que l'on n'efface pas. Et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés. Et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes. Quand on relit son livre, laissez tourner les pages, laissez la place aux autres. Petit mot dans votre ouvrage, ainsi s'écrivent les plus beaux des livres. Mmh. du destin. À chaque oiseau sa plume, à chaque auteur sa patte, à chacun son bouquin. Sourire de serrature, avoir le choix dans l'écriture et se laisser le droit d'écrire les mots comme on les voit. Car de nos prisons les mots nous délivrent. Oh, vie.
C'était Mathéo Langlois avec ses fautes d'orthographe. Toute cette semaine, vous le savez, dans l'agité du local, on se promène donc dans les allées du refuge de l'Arche à Château-Gontier, en compagnie aujourd'hui encore de la vétérinaire Sarah War, qui nous raconte l'histoire d'un ours, Bonnie. Avec deux de ses frères et sœurs, il a été retiré d'un montreur d'ours. Des séquelles de dressage, des pathologies dentaires, autant dire qu'il n'était pas en bonne santé à son arrivée au refuge.
On a donc pris le temps, voilà, il fallait qu'il comprenne aussi dans quel environnement il était, qu'il découvre son nouvel environnement, qu'on lui disperse la nourriture, qu'il fasse de l'enrichissement, qu'on trouve d'autres activités pour lui, pour en fait diminuer ses stéréotypies. Les stéréotypies chez les animaux sauvages, c'est en fait des grandes angoisses, du grand stress. Et en gros, faut pas bloquer ces stéréotypies parce qu'en fait, c'est le moyen qu'ont les animaux pour se calmer. C'est comme un antidépresseur naturel, en fait. Et donc, si on bloque ça, du coup, on augmente encore plus le stress. Donc, il faut trouver d'autres biais pour réussir à trouver d'autres solutions pour eux. Et donc, voilà, à force de temps, là, ça va faire presque un an, on a réussi. Bonnie est beaucoup mieux dans sa tête, il tique beaucoup moins. Il est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Il a repris aussi de l'état, parce qu'il est arrivé, il était relativement gros, mais très démusclé aussi. Donc, pareil, il a repris de la musculature. Donc là, c'est un bel ours de 280 kilos, donc c'est un beau bébé. Et là, récemment, on a, du coup, on devait opérer ses dents, en fait, pendant le confinement. Et puis là, on a fait appel à un spécialiste en dentisterie, qui travaille, en fait, avec Faunvet à Nantes. Et donc, c'est en fait, des spécialistes, en fait, en faune sauvage. Et lui, un spécialiste en dentisterie, qui sont venus en renfort sur le refuge pour donc opérer Bonnie. Donc Bonnie a été opérée, donc il y avait effectivement des grosses pathologies dentaires. On a dû retirer deux canines en bas. Les deux canines du bas ont dû être extraites totalement. Et par contre, les deux canines du haut, du coup, on n'a pas été obligé de les extraire. Mais par contre, elles ont été dévitalisées afin qu'il n'y ait plus une infection qui se propage. Donc voilà, Bonnie a été opéré, il va bien maintenant, ce matin, hier matin il nageait, il n'y avait pas de soucis, enfin, à la suite de son réveil il nageait. Là encore, on peut estimer malgré tout qu'avec ses lésions dentaires qu'il avait, il était en souffrance, c'était quelque chose d'inconfortable, il faut imaginer, c'est comme nous, quand on a une dent pourrie, on a mal, je veux dire, tout le temps au quotidien, c'est quelque chose dont on souffre tout le temps, donc lui c'était une souffrance au quotidien. C'est difficile de savoir la douleur, surtout sur les animaux sauvages en captivité, parce que malgré tout, ça reste des animaux qui ne montrent pas. Ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas, c'est juste qu'ils ne montrent pas, parce que ça reste des animaux sauvages, que dans la nature, ils ne doivent pas montrer leur souffrance. Donc, c'est quelque chose qui est important, voilà, de se rendre compte et de prendre en charge la douleur, même si on ne la voit pas. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va le soulager. Et au niveau comportemental, on attend de voir effectivement si on a encore de l'amélioration sur son confort et sur son bien-être, quoi.
Ce qu'on espère bien sûr pour Bonnie. Demain, nous nous intéresserons au chantier d'insertion mis en place depuis plusieurs années déjà, une autre mission plus sociale, celle-ci du refuge. Aujourd'hui mercredi, feuilletons l'agenda. Qu'y a-t-il à voir à faire en Mayenne aujourd'hui et dans les prochains jours? On rappelle toujours ce ciné-débat Europe, prévu ce soir à 19h au cinéma Le Trianon à Bourgneuf-la-Forêt, autour du film Dieu existe, son nom est Pétrounia, une séance organisée par la Maison de l'Europe et qui sera suivi par un échange avec l'association Femmes Solidaires 53. L'entrée est gratuite. Et puis on va se projeter un peu dans les prochains jours avec l'ouverture de la saison culturelle à Cran. Ce sera vendredi à 19h à l'espace Le Pré Neuf, avec donc toute une présentation de la saison culturelle 2020-2021 et un spectacle de la compagnie Girouette. Ce ne sera pas long pour découvrir différentes directives européennes. Alors je vous rassure, avec beaucoup d'humour, beaucoup de jonglage, un spectacle donc à ne pas manquer. Puis je vous rappelle que vous pouvez réécouter aussi l'émission en podcast sur la programmation complète de la saison culturelle du pays de Cran. La semaine européenne de développement durable, elle, se poursuit autour de Laval, avec un autre rendez-vous prévu vendredi à 10h15, la visite de la station d'épuration pour découvrir comment sont traitées les eaux usées. C'est une visite gratuite, mais sur inscription par mail à environnement@aglo-laval.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. À suivre sur notre antenne à 19h, Novorama, qui explore la scène indie rock, pop, électro. Et à 21h, l'émission métal de l'autre radio, Chaosphère, une spéciale live. Et quant à moi, avec L'Agité du Local, bien sûr, reviens demain à 12h15, même heure, même endroit. Bonne fin de journée et à demain.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'Agité du Local.